89.4 et c'est l'heure de Radio Cartable, la radio des enfants des écoles d'Ivry, qui termine sa dernière émission avec de beaux inédits aujourd'hui. Je voulais remercier les presque 900 enfants qui ont participé à la radio cette année, leurs professeurs et tous les adultes qui ont permis ces productions, et en particulier Anne-Charlotte Ambrosi, Marianne Guillemot, les deux coordonnatrices REP d'Ivry, toute l'équipe de la circonscription et Irène Berelovitch, journaliste et documentariste. Bonnes vacances!
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4. Vous allez écouter l'émission Bibliomanie, aujourd'hui présentée par Valère Marie Marchand, avec à la technique Flo Descailloux. Nous recevons Émilie Lanez pour Folcoche, qui c'est un récit, c'est une rencontre-enquête. Folcoche, ça vient de paraître aux éditions Grasset. C'est un texte, c'est une rencontre, j'allais dire, Émilie Lanez. Bonjour.
Bonjour.
C'est vrai que c'est une rencontre avec une femme. Qu'est-ce qui se cache derrière un personnage de roman? On est toujours, c'est fou, ce surnom de Folcoche, qui désigne une mère indigne, une mère vraiment qui a tous les défauts. Fameux roman de Vipère au poing d'Hervé Bazin. Finalement, cette création littéraire a effacé cette femme que vous remettez. Enfin, j'ai beaucoup aimé votre livre. Pour cette rencontre avec cette femme qui est devenue une femme de l'ombre, tout en étant malheureusement dans la lumière, mais elle était dans la lumière pour ses mauvais côtés. Alors j'aimerais que vous nous racontiez le point de départ de ce livre, c'est un peu la question bateau, mais le point de départ de ce livre, Émilie Lanez, quelle était vraiment votre première rencontre avec cette femme qui s'appelait Paul Guillotot et qui était la mère d'Hervé Bazin?
Ma première rencontre, c'est que quand j'ai eu cette idée... un peu ce gros nu, enfin, je ne sais pas trop vous dire comment j'ai eu cette idée de me demander, finalement, cette femme, Folcoche, passe dans tous les esprits pour être l'incarnation, le monstre absolu, la mauvaise mère par définition. Et j'ai eu un peu envie de me dire, mais c'était qui en vrai la mère d'Hervé Bazin? Qui était Paul Guillotot? C'était vraiment ce monstre? Si elle était ce monstre, pourquoi? Donc, au départ, une question assez basique. Et ma première rencontre, puisque c'est ce que vous me demandez, c'est assez vite. Je suis allée visiter la maison où ils avaient habité, une espèce de petit château en Anjou, qui est aujourd'hui transformé en maison d'écrivain, un musée, qui est habité par un monsieur très charmant, et qui lui connaît très bien l'histoire de la famille, puisqu'il y a eu très peu de propriétaires de cette maison. Et en me raccompagnant, après avoir visité le musée, le musée reprend l'histoire, Folcoche le monstre. Hein. En me raccompagnant, il y a une pelouse un peu devant la maison. Et en me raccompagnant, il me dit, regardez, c'est ici que Folcoche, il l'appelait Folcoche aussi, c'est ici que Folcoche jouait au tennis. Comme elle n'avait pas assez d'argent pour pouvoir construire un court, elle avait fait peindre à la chaux des lignes blanches sur la pelouse, et je m'étais dit, tu vois, c'est marrant, Folcoche qui joue au tennis, je trouve que ça allait pas du tout avec ce que j'avais à l'esprit, parce que
c'était pas raccord.
C'était pas raccord. Il me dit, elle joue au tennis, et elle avait appris en Chine. En fait, il y avait deux informations que je trouvais intrigantes. Et donc, je me suis dit, il y a quand même quelque chose à chercher. Elle aurait donc eu une histoire un peu plus animée que ce qu'on pense. Et par différents contacts et rendez-vous, j'ai été amenée à lire et à recevoir en prêt très aimable. Toute la correspondance familiale, parce que toute cette affaire se passe entre 1920 et 1930, une époque, vous l'ignorez pas, où tout le monde s'écrit, toute la journée, les très longues lettres. Ouais. Et ça, c'est quand même...
Alors, il faut dire, pour nos auditeurs, donc Hervé Bazin est né en 17 avril 1911. Il va mourir en 17 février, d'ailleurs, 1996. Alors, c'est fou, parce que c'est vraiment un personnage de roman. C'est-à-dire que vous montrez que le personnage de roman de Folcoche, il y a une femme derrière, et vous montrez que le créateur du personnage de roman, c'est lui le personnage de roman, c'est lui la folie douce, c'est pas douce, hein, c'est un sacré coup de bambou du côté d'Hervé Bazin. Alors je crois que vous le citez, Hervé Bazin, je pense. Je pensais que ça allait être tiré à 500 exemplaires. En fait, je l'ai écrit pour enquiquiner ma famille. Donc il y a eu des allusions tout le temps. Elle a été très choquée. Mais comme ce sont de bons bourgeois, ils se sont tus. Alors c'est vrai qu'Hervé Bazin, bon, moi j'ai découvert son personnage qui est pas très sympathique. Hein. Faut dire que c'est quelqu'un qui... En même temps, c'est peut-être fallait-il être comme lui pour écrire ce qu'il a écrit, mais c'est quelqu'un qui pousse sans arrêt les limites, qui est escroc, qui vole sa famille, qui pense qu'à l'argent finalement, hein. L'argent. J'ai découvert d'ailleurs ce matin, pour rien vous cacher, je lisais un livre qui vient de paraître sur François Nourricier, qui était une autre figure. Il y a un livre qui vient de paraître sur François Nourricier, qui s'appelle « François Nourricier au cœur des lettres françaises ». Ça vient de paraître au Cherche Midi, c'est François Chaubet qui vient d'écrire ce livre. Et voilà ce qu'il dit d'Hervé Bazin. Enfin, moi, ça m'a, justement, c'est une synchronicité, parce qu'on doit en parler toutes les deux. Quant à Hervé Bazin, auteur phare de Grasset et président de l'Académie Goncourt, il obtenait en décembre 1976, pour son « Ce que je crois », 300 000 francs. D'avaloir des droits de 18% jusqu'à 10 000 exemplaires et un tirage au minimum de 20 000 exemplaires. Pour l'abécédaire, le contrat de septembre de 1981 donnait à Bazin des droits uniformes de 20%, ce qui se fait jamais. 250 000 francs d'avaloir, un tirage au minimum de 25 000 exemplaires. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est un personnage, c'est un... Oui, c'est un. Faut que vous nous le citiez un peu. Alors, il naît en 1911 dans une fratrie. Ils sont trois garçons.
Il est le deuxième de trois garçons. Son père, c'est des bourgeois de province, très conservateurs. Ils vivent à Anjou. À l'époque, ils sont illustres pour deux raisons. D'abord, parce que un de ses oncles. Et René Bazin est à l'Académie, c'est un grand écrivain catholique, il fait une littérature très, très édifiante, on va dire. Et le père de l'écrivain Hervé Bazin, dont le vrai nom est Jean Hervé Bazin, son père est professeur de droit à la faculté catholique d'Angers, qui est une co-création de la famille. Donc c'est des bourgeois établis qui n'ont pas énormément de revenus, mais c'est des figures notables de province. Et Jean est dans cette famille, donc sa mère est donc celle qu'il va surnommer Folcoche, Paul né Guillotot, et son père Jacques Hervé Bazin. Alors ce couple, déjà, c'est un couple comme on faisait à l'époque dans ces familles-là.
Un mariage arrangé,
ils se sont vus deux fois, la deuxième ils étaient fiancés, la troisième ils étaient mariés, quoi. Donc il n'était pas du tout question d'amour, ça arrangeait tout le monde. Jacques était un peu introverti, on ne savait pas trop avec qui le marier. Et puis elle, ses parents étaient pressés de s'en débarrasser parce qu'ils ne l'avaient pas élevée. Elle a passé toute sa vie dans un internat. Donc elle commence son mariage. Moi, ça m'a beaucoup touchée, totalement privée. Elle ne sait pas ce que c'est qu'une famille. Elle ne sait pas ce que c'est que l'amour familial. Elle n'en a jamais reçu. Et donc, elle va avoir trois garçons. Jean, l'écrivain, est le deuxième. Et cette femme, c'est aussi l'histoire d'une femme dépossédée de tout, toujours. Ouais, c'est-à-dire que à peine ses enfants sont-elles nées que sa belle-mère les récupère et s'en occupe. Alors que ses trois enfants sont très petits, son père lui annonce qu'il est muté en Chine dans un comptoir français. On lui demande pas son avis, elle doit partir tout à fait cessante. À l'époque, c'est un truc de dingue de partir à Shanghai, un colon français sur demeure. Elle laisse derrière elle trois tout petits garçons, l'écrivain trépané du cerveau parce qu'il a une otite très inflammée. Mais Paul Guillotot, c'est quand même aussi l'histoire d'une femme qui n'a jamais eu le droit à la parole et jamais eu le droit au chapitre. Donc, on l'a mariée, elle a eu des enfants, on lui a pris ses enfants, elle est partie en Chine et elle revient. Et là, tout va très mal se passer. C'est le point de départ, d'ailleurs, du roman Vipère au poing.
Oui.
Ses enfants, qui la connaissent à peine, puisqu'ils l'ont très peu vue, ont été très couvés par leur grand-mère, qui, elle, était très affectueuse. Et Jean est un enfant à problème. Alors aujourd'hui, je présume que ce serait peut-être d'ailleurs dommage pour la littérature, mais il y aurait eu peut-être des moyens d'accompagner un petit garçon comme Jean, mais à l'époque, il n'y en a pas. Et Jean... très tôt, et très turbulent, il ment beaucoup, il est kleptomane. Il est vraiment kleptomane.
Oui, il a un problème avec...
Il passe sa journée à voler les affaires de sa famille, de ses parents, de
il
ses frères.
Il les cambriole même, par la suite, il va les cambrioler.
Il est un peu plus grand, il va même les cambrioler trois fois la demeure familiale. Enfin, il y a chez ce garçon une avidité, un besoin de prendre chez les autres quelque chose qui certainement aujourd'hui les psychiatres sauraient expliquer, mais... Et donc, ses parents, qui sont désemparés, et singulièrement sa mère, qui ne sait pas très bien faire avec les enfants, je l'ai dit précédemment, elle ne sait pas ce que c'est, au lieu peut-être d'essayer de combler ça par de l'amour, de la tendresse, elle se raidit, donc ils se raidissent tous les deux. Et donc, ça part très mal d'emblée. Le petit garçon Jean est renvoyé de tous les établissements scolaires où il est. Pas parce qu'il n'est pas intelligent, il est très intelligent, mais parce qu'il vole ses camarades de classe, parce qu'il... Bon. Donc c'est un enfant très difficile, et à 19 ans, il va être interné la première fois, après, vous venez de le rappeler, avoir cambriolé le château familial, forcé le secrétaire de son père, et être parti avec la voiture de son père, qu'il a fracassé dans un fossé, et donc il va être interné. Donc la carrière de jeune homme de Jean-Hervé Bazin, c'est la carrière d'un sujet malade, psychiatrique de l'époque. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de soins, en fait, on les enferme. À l'époque, il n'y a pas de médicaments.
Donc, il n'était pas soigné. Enfin,
il n'y a pas de soins, donc on les enferme. Et puis, quand c'est fini, il ressort, puis il recommence. Puis, enfin, bon, donc, lui, il va être interné 4 fois. Il va fuir beaucoup, c'est un grand fugitif, dès qu'il est interné quelque part dans un des asiles psychiatriques, il prend la fuite, et puis il va développer une carrière d'escroc assez phénoménale, puisqu'il va monter des escroqueries, alors des faux papiers, escroqueries des PTT, faux mandats postaux, quand il a des jeunes filles qui travaillent pour lui, qui vont dans des bijouteries, dans des hôtels, enfin il a...
Manipulateur aussi.
Très manipulateur, il se sert de... Quand on lit ses écrits, parce que lui-même a écrit beaucoup de lettres à sa famille, tout est toujours faux, tout est toujours calculé. Et ses parents, et c'est là qu'il faut rétablir une forme d'exactitude des faits, contrairement à ce qu'il raconte dans Vipère au poing, ses parents, comme ils peuvent, c'est certainement pas des parents extraordinaires ni exemplaires, mais disons qu'avec leurs moyens pour l'époque, ils font ce qu'ils peuvent, ils vont s'arracher les cheveux pour cet enfant. Ils vont tout essayer. Ils essayent de le faire suivre par les meilleurs psychiatres. Ils font tout pour lui éviter d'avoir des problèmes avec la police. Il en a beaucoup. Quand il est arrêté et qu'il s'enfuit, ils écrivent à la terre entière. Il faut sauver notre enfant. Surtout, ne le jugez pas. Il est malade. C'est bouleversant, ces courriers. C'est bouleversant. Et puis, si je raconte l'histoire un peu en accéléré...
Après, nous allons revenir au ralenti sur certaines étapes.
Alors, allez, je vous laisse poser une question.
Non, allez-y en accéléré, allez-y, et puis après...
Ce que je veux juste dire, pour arriver au livre, Vipère au poing, pourquoi nous parlons de lui aujourd'hui, finalement, aussi du mien, mais principalement du sien, c'est qu'il va être jugé, condamné à 4 ans de prison pour escroquerie, faux et usage de faux, et qu'à cette occasion, ses parents, je rappelle donc bourgeois, petit patrimoine immobilier, vont le faire placer sous le statut d'interdit judiciaire, ce qui fait qu'il ne peut plus hériter, et d'être privé de l'héritage va le rendre fou de rage. Et il est en prison à ce moment-là, et il écrit un livre, et il leur dit qu'il va se venger d'eux, et de cette interdiction, de cette privation d'héritage. Et pour se venger d'eux, il va donc écrire Vipère au poing, qui aura le succès qu'on lui connaît, puisque ce livre s'est vendu à ce jour à 5 200 000 exemplaires.
Oui, c'est fou, quoi. Il y a un succès tout de suite, dont nous allons parler. Mais ce que j'ai aussi apprécié dans votre livre, Émilie Lanaise, c'est votre parcours vers cette femme qui, vers les coulisses de l'écriture aussi, enfin vers, c'est très aussi sain pour nous lecteurs, parce qu'on a actuellement, nous vivons une époque où il n'y a pas le sens de la nuance, on part où tout ce qui est écrit est parole d'évangile, et là au contraire, et c'est très positif je trouve, de montrer ben non, l'autofiction reste une fiction, il faut pas croire, il faut aller au-delà, et ça peut faire du mal aussi, ça souligne, vous soulignez la responsabilité de l'écrivain,
oui,
du romancier aussi, mais de l'écrivain qui a parfois entre ses mains des vies humaines et qui peut faire par les mots, on peut tuer aussi. C'est ça qui m'a passionnée en vous lisant.
Oui, moi c'est ce qui m'a quasiment bouleversée et ça en effet interroge l'autofiction parce que en l'occurrence pour Hervé Bazin, l'autofiction c'est une autofiction au service à dessein de sa propre gloire et de sa propre avidité et de sa propre cupidité. Donc il va condamner à l'opprobre, à la honte, parce que le retentissement est spectaculaire quand le livre sort en 1948. Sa famille, il les fait passer pour des étriqués, radins, faibles d'esprit, bornés, méchants, calculateurs, et alors que c'est faux. Et il le fait au service d'une part d'héritage qu'il veut récupérer, donc il n'y a aucune noblesse dans cette autofiction. Donc au service de sa gloire, et d'ailleurs ça va très bien marcher, ça va exceptionnellement marcher,
jusqu'au bout,
au service de sa gloire et de sa notoriété et de son image, il a extrêmement abîmé sa famille. Quand le livre sort, il faut se rendre compte que les Hervé Bazin, dont je disais précédemment que c'était des notables à Angers, changent de trottoir dans la rue parce que les gens ne veulent plus leur adresser la parole. Ils passent pour des monstres. Et ça m'a beaucoup interrogée sur la force démiurgique de l'écriture. Vous le disiez, vous avez complètement raison. Comme c'est écrit, c'est vrai. Donc, comme il est écrit que Folcoche est un monstre, elle est un monstre. Et là où l'histoire est mais vraiment vertigineuse, c'est que Paul Guillotot, qui n'était absolument pas un monstre, qui était la femme empêchée par privé, je l'ai dit, mais elle va devenir son personnage de roman. Et ça, je dois dire qu'aujourd'hui encore, ça me trouble un point, c'est que cette femme, j'ai vu beaucoup de photos, qui était une femme, elle n'était pas très belle, mais enfin, elle était grande, elle se tenait bien, elle coupait ses rosiers, quoi. Après le succès de Vipère au Poing, qui la présente sous un jour terrible, comme si c'était un monstre qui les affame, qui les bat, elle va devenir quasiment clocharde. Enfin, c'est totalement dingue. C'est-à-dire qu'elle va devenir elle-même un personnage de roman. Elle arrête de s'habiller proprement, elle arrête de se laver, elle est arrêtée dans la rue, on pense que c'est une vagabonde. C'est-à-dire qu'elle va devenir le personnage de fiction que son fils a fait d'elle. Et dans les photos, ça se voit. Les ravages de l'autobiographie, là, vont jusqu'à l'effacement d'un personnage réel qui devient un personnage de fiction, un personnage de papier. C'est-à-dire qu'elle va devenir le monstre que son fils a fait d'elle, physiquement.
Ouais.
Et
donc vous écrivez, d'ailleurs je voulais enquêter pour comprendre qui était vraiment cette femme, comment elle était devenue mère empêchée, épouse malheureuse, j'allais lui rendre la voix dont le fils l'avait privée, je lui trouverai des explications, des excuses, peut-être quelques tendresses, je serai son avocat de la défense, celui qu'au tribunal de la littérature, condamné par son enfant procureur, elle n'a pas eu. C'est vrai que c'est terrible, et je trouve que voilà, c'est... Peut-être qu'on ne fait pas de la littérature avec des bons sentiments, mais parfois il est bon aussi de faire la part des choses.
Personne ne l'a jamais défendu.
Ouais.
Personne n'a dit jamais n'a essayé de dire que cette histoire n'était pas celle-là. Enfin, un des beaux-frères de Folcoche a essayé, mais la pression médiatique, enfin, on ne disait pas ça à l'époque, mais en tout cas... était tel qu'il n'a pas réussi à faire...
Il est en plus dissimulateur, le roi de la dissimulation. Nous allons faire une pause musicale et après, nous reprenons notre enquête sur Hervé Bazin.
Eh bien là, je pense que vous reconnaîtrez un très regretté chanteur de Pigalle, François Lazzaro, « Ma maman, je l'aime pas ».
«
Ma maman, je ne l'aime pas, c'est encore plus fort que ça. Ma maman, j'adore, ma maman, je ne l'aime pas, non, c'est encore plus fort. Ma maman, j'adore, pourtant avec elle, je suis pas toujours sympa. Parfois, je le suis plus avec mon papa. Je suis même des fois un peu menteur, voire même baratineur. Mais elle m'a toujours appelé son petit truc, son machin, avec plein de câlins. Le soir des petits bisous, une histoire avec des loups. Hop, elle éteint. Qu'est-ce que c'est bien. Ma maman, je ne l'aime pas, c'est encore plus fort que ça. Ma maman, j'adore. Ma maman, je ne l'aime pas, non, c'est encore plus fort. Ma maman, j'adore. Je lui fais des trucs pas très gentil des fois. Par exemple, des grimaces pas vraiment sympas. Elle, elle me gronde rarement, et puis elle se trompe pas souvent. Comment elle fait pour pas s'énerver quand je dis des gros mots ou que je veux pas me laver. Elle me chante des petites chansons qui parlent de petits cochons. Ça me fait marrer, et ça la fait marrer. Ma maman, je ne l'aime pas, c'est encore plus fort que ça. Ma maman, j'adore. Ma maman, je ne l'aime pas, non, c'est encore plus fort. Ma maman, j'adore. Je grandis, tous les jours je grandis. Je mets les dents sous l'oreiller pour la petite souris. J'arrive à faire plus de trucs maintenant. J'espère qu'elle est fière, ma maman. Des fois, je la vois pas, elle est derrière moi. Pourtant, je la sens, elle est là, elle me regarde. Ça me réchauffe tout là-dedans. Je vais devenir grand, maman. Je vais devenir grand. Grand.
Vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, vous écoutez l'émission Bibliomanie, aujourd'hui en compagnie d'Émilie Lanaise pour Folkoche, ça vient de paraître aux éditions Grasset. Émilie Lanaise, c'est vrai qu'on est... Votre livre est passionnant, hein. Je dois dire que c'est une enquête passionnante et passionnée. C'est vrai que quand on écrit... est-ce que vous avez pensé en faire un roman finalement, à un moment donné? Parce qu'on ne sait pas, c'est un récit, un roman enquête, est-ce que vous placez les personnages à un moment donné, vous...
Non, j'ai jamais... Enfin, il y a eu trop de romans dans cette famille.
Oui, il faut pas en rajouter.
Oui, au contraire, moi je suis journaliste de métier et j'ai été attachée à faire quelque chose qui soit très très documenté, très précis, très rigoureux, oui, et très exact. J'ai passé beaucoup de temps aux archives de police... éplucher les dossiers judiciaires, éplucher les annales, les asiles où il a été. Enfin, je voulais que tout soit très rigoureux, remettre du vrai dans ce poison de, en l'occurrence, ce poison de l'autofiction. Rappeler juste les faits, quoi.
Se rappeler les faits. Alors, d'autant, alors même son pseudonyme Hervé Bazin. En fait, il s'appelait Jean Hervé Bazin. Hervé Bazin, du coup, ça implique toute la famille.
Il a englouti sa famille, du coup, son nom de plume déjà... avale toute sa famille.
Voilà.
C'est totalement dingue.
C'est fou.
C'est totalement dingue.
Et alors, en plus, c'est vraiment... c'est une sacrée fripouille, quand même. sa grand-mère, Marie Bazin, elle avait écrit...
Oui.
Hein, même le titre, oui. Vipère au poing.
Bah, la vipère au poing, oui.
Et c'est... Alors, faut vous le racontiez. Moi, je ne savais pas, parce que moi, j'ai appris des tas de choses. Oui. Et quand même, on se dit, mais jusqu'où il va. Mais là...
Dans cette famille, c'est touchant. D'ailleurs, tout le monde écrit. Ses deux grand-mères, et si je ne me trompe pas dans les générations, son grand-père aussi, qui avait un feuilleton dans la presse locale. Tout le monde a écrit et sa grand-mère a publié un petit roman sous pseudo, hein, parce que ça se faisait pas pour les dames de la bourgeoisie de faire de la littérature, qui s'appelait La vipère au poing, et ce livre était dans la bibliothèque familiale. Donc, un des 1000 mensonges d'Hervé Bazin, quand il dit qu'il a écrit ce livre très vite, en 3 mois, c'est de faire croire qu'il a inventé ce titre.
Bah oui, en plus.
Il l'a pris à sa grand-mère en supprimant l'article là. Il a transformé la vipère au poing de sa grand-mère en vipère au poing.
Voilà. Donc, mais c'est absolument. Alors, vous nous décrivez. Alors, bon, la mère, Paul aussi, quand elle arrive, c'est pas du tout. Alors, en fait, lui, il a. Alors, bon, il y a le père. Hein, le père est quand même assez. Le père, il passe son temps, je crois, à faire des. Enfin, faire des.
Épingler des mouches, comme on dit.
Des papillons. Enfin, ouais. Alors, lui, il fait pareil, finalement. Il a le même geste, ce geste du père, d'épingler, de mettre sous verre.
Oui.
Un être humain, enfin
un vivant,
le oui. vivant de le mettre sous verre, il a le même réflexe avec sa, oui. avec sa mère.
Oui, c'est ce qui me semble
aussi.
Oui.
Et c'est terrible.
Oui.
Et le père, il est absent, il est pris par ses rêveries et par tout ça. Mais la mère, c'est vrai qu'elle est, au départ, vous dites, vous la décrivez gauche, vous dites elle est mariée à un inconnu dont elle n'aura entendu qu'une fois le son de la voix. Et qui ne vénère que les insectes. Elle reçoit une dot importante placée en action à laquelle Jacques ne peut toucher et dont elle dispose les intérêts. Alors, par exemple, je sais pas, elle avait fait une maladresse. Lui dit, lorsque la belle-mère déplie sa serviette en tissu, elle s'esclave. Mais ma petite Paul, ce sont les thés d'oreiller et non des serviettes. La jeune mariée se fige, la bouche ouverte, stupéfiée. Elle ne sait que dire. Jamais elle ne se départira de ses angoisses. Toute sa vie, ceux qui la connurent décrivent comme soudain, elle se paralysait, la bouche bée. Une sorte de sauvagerie, note Michel. Donc c'est une femme à qui on enlève d'emblée la parole. Le droit de réponse, elle ne l'a pas. Là, vous lui donnez. C'est une femme sans parole, finalement.
Une femme sans parole, une femme sans amour, puisqu'elle n'est pas aimée, elle n'a pas été aimée de ses parents qui la fourguent dans un pensionnat quand elle a 9 ans. Elle en sort quand elle en a 18, elle est mariée quelques mois plus tard. Privée de parole par son mari. Elle est désemparée, absolument. Et les témoins de l'époque, et même ses petits-enfants qui sont encore vivants aujourd'hui, puisque cette histoire n'est pas si lointaine, contrairement à ce qu'il peut paraître, ses petits-enfants vivent aujourd'hui, et je les ai rencontrés, me décrivent une femme qui était gauche, oui, elle était entre gauche et rude, je sais pas comment, elle était peut-être un peu brutale, elle n'imitait pas beaucoup d'huile dans les rouages, et oui, privée de parole, privée de liberté de choix.
Enfin, vous avez cette phrase terrible. On lui a désigné un mari, on lui a pris ses enfants, elle obéit. Mais c'était le sort aussi de beaucoup de femmes de l'époque.
Oui, hein. De ce milieu-là singulièrement, elle a pas eu le choix. Elle n'a jamais eu le choix. Elle a tout subi. Elle a aussi subi les déviances, je sais pas comment dire, ou la maladie, ou les déviances
les
et la maladie de son fils. Oui.
Perversion, parce que vous dites, Jean lui donne des soucis, cet enfant a tué à l'aiguille un martin pêcheur couvant sa nichée. Enfin, il y a une cruauté. Il y a une cruauté, une perversion. Alors, il faut dire que lui, alors, il y a l'épisode de Shanghai, hein, ça vous montrait la fracture avant et après Shanghai, pour la famille. Et puis lui, il a cet otite, je crois, en 1919. Vous dites, il est hospitalisé, trépané. On lui retire un morceau d'os, il gardera un creux derrière l'oreille et au cœur l'absence de sa mère. Donc il y a un manque d'écoute.
Absolument, absolument. Un manque d'écoute et sûrement une privation d'amour aussi pour cet enfant, oui.
Il y a un manque d'écoute total et c'est vrai. Alors, ses débuts en littérature, il écrit dans une revue, je crois, La Coquille.
Oui, une revue qu'il a créée, oui.
Voilà, et il publie ses premiers poèmes et il gagne quand même le prix Apollinaire. Donc il a des débuts, alors c'est lui qui veut faire, il veut faire des études de lettres à la Sorbonne. Il sait ce qu'il veut faire, hein. Il est très déterminé. Hein,
il veut écrire et ses parents ne veulent pas qu'il fasse des études de lettres. Hein. Oui. Je pense que pour un fils de bourgeois, à peu près toute la famille est professeur de droit ou magistrat. Bon, on trouve que c'est pas très sérieux comme étude. Ça a certainement aussi alimenté son gigantesque ressentiment à l'endroit de ses parents et de sa famille. C'est que, manifestement, ce garçon était doué pour l'écriture et on l'empêche de faire des études de lettres. Donc, ça nourrit sa colère. Et puis je raconte plus tard qu'il va manipuler ses parents. Enfin bon, il a contracté un premier mariage.
Oui.
Bon, bref, c'est une histoire assez rocambolesque. Il leur fait croire qu'il n'est pas marié pour qu'il lui envoie de l'argent. En fait, qu'il est déjà marié.
Alors oui, alors et du côté bon, alors la mère, donc il faut dire aussi, enfin lui, il est vraiment obsédé par l'argent, par les biens, etc. Mais elle aussi, elle enfermait tout à clé. C'est ce qu'on apprend dans votre livre, Émilie Ladaise.
Alors moi, ce que je ne sais pas, c'est qui a commencé. Voilà. Est-ce qu'elle ferme tout à clé parce qu'elle comprend que cet enfant pique tout ce qu'il y a dans la maison?
Ah, c'est possible aussi.
Oui, ou est-ce que lui pique tout ce qu'il y a dans la maison parce qu'elle ferme à clé? Je ne sais pas. C'est quand même une folie à deux, ce qu'ils ont construit aussi. Hein.
Paul souffrait-elle du même mal, écrivez-vous. Elle me raconte que lors des vacances au pâtis, une fois Paul l'a attrapé chipant une poire, il lui infligeait comme châtiment de se tenir debout tout l'après-midi à genoux sur le gravier. Bon, c'est aussi malgré tout d'époque, il y avait des...
Oui, des châtiments corporels.
C'est une femme qui est de son époque. Alors vous dites, pareil, le père ne tente aucun geste pour soutenir son épouse ou cadrer ses enfants, étrange homme préférant disposer de temps pour ses collections d'insectes plutôt que de gagner de l'argent pour remplir le placard à provisions. Paul éprouve en silence ce deuxième abandon. Mal aimée de ses parents, la voici délaissée par celui qui lui impose précarité et isolement. Alors, et lui, il faut dire qu'à chaque fois, on vous suit, on se dit, mais quand par exemple, on est dans l'année 1931, vous dites, sa vie aux quêtes de fugue en asile, d'internement en évasion, de planque en lettres anonymes, de dénonciation, parce que quand même, il dénonce.
Hein, oui, oui.
C'est pas quelqu'un de. En malversation, un maelstrom demeuré totalement caché, ignoré de ses contemporains, comme plus tard de ses biographes et des universitaires. Donc c'est quand même oui c'est
un sacré lascar.
Ouais. Et ça va, on se, par exemple vous dites il fait tous les métiers. C'est ça que commence le personnage du roman. Vous dites, employé au standard d'un meublé parisien, la fonction laissant du temps pour écrire, Jean s'essaie à des poèmes et propose ses talents aux rédactions parisiennes. L'Écho de Paris lui confie une enquête sur les poètes contemporains, dont Paul Valéry, auquel il lui donne à lire ses sonnets. L'auteur du Cimetière marin le complimente en lui conseillant de songer à écrire des romans. Donc il sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il veut. Alors tous ces documents. Alors là où ça devient quand même épique, c'est quand il est embauché à la poste au service de tri de la gare d'Austerlitz. Il faut que vous nous racontiez ça, Émilie Ladaise. Parce que quand même au service de tri, mais puis il a. Oui, c'est terrible parce qu'il fouille partout.
Il est embauché à la poste et puis il va, je crois que c'est au bout de 3 mois, au bout de 2 mois, il passe en conseil de discipline. Il avait ça à l'époque. Parce qu'on le soupçonne de sabotage. C'est qu'il a piqué du courrier et puis il a piqué des tampons. Et ce qui est assez hallucinant d'ailleurs, c'est qu'il va être embauché une deuxième fois à la poste. C'est-à-dire à l'époque, il ne devait pas y avoir de fichier. Enfin, bon, bref. Il va être embauché une deuxième fois, mais là, il s'y prend beaucoup mieux, puisque là, il a un peu développé son escroquerie et qu'il fait des faux mandats postaux. Il faut peut-être rappeler à nos auditeurs qui ne se souviennent plus très bien ce que c'est, les faux mandats postaux. C'est en gros, si je devrais simplifier, c'est comme un chèque au porteur. C'est-à-dire qu'on a dans la main un mandat postal de 100. On peut aller payer avec ça quelque chose qui coûte 20 et on va vous rendre 80. Et en fait, il fabrique des faux. Il a plein d'adresses différentes, des fausses adresses. Il a aussi plein de fausses identités. À une époque, il en a 10. Donc, il touche des mandats postaux partout dans Paris. Et avec cet argent, il envoie des jeunes filles qui sont amoureuses de lui et qui sont en général beaucoup plus jeunes que lui, dans des hôtels ou dans des bijouteries, acheter et récupérer du cash. Et lui les attend. Enfin, il a vraiment une petite... je ne veux pas dire mafia parce que ce serait péjoratif comme terme, mais il a construit une petite escroquerie qui est très organisée, une petite PME de l'escroquerie. Mais la Poste va porter plainte contre lui et il a aussi fait, des faux papiers d'identité.
Voilà, c'est faux, il est faussaire.
Escroc,
voleur, menteur.
Et très organisé, parce qu'il a un petit cahier dans lequel il tient. Il est très organisé, Hervé Bazin. Donc, il faisait les mêmes fiches pour ses livres, mais il a aussi une fiche pour ses escroqueries. Donc, il tient un livre de compte de ses escroqueries en bijouterie. Donc, aujourd'hui, un solitaire, 2 colliers en or, 3 bracelets. Il écrit ça, ce qui apparaît aujourd'hui dans les archives de la préfecture de police.
Voilà, vous écrivez, il aurait escroqué 30 000 francs, falsifié un extrait date de naissance et un livret militaire, volé des tampons et des cachets, se serait fabriqué plusieurs identités. C'est pour ça que je parle de personnages de roman, on peut pas. Gaston Pujol, Jean Mauve, Lacour, il a eu combien d'identités à peu près ?
Une dizaine.
Une dizaine,
oui.
Hein.
À un moment, je dis dans le livre que finalement, enfin, je me permets de me poser la question que qu'aurait été la littérature d'Hervé Bazin si, avec le talent littéraire indéniable qu'il a et stylistique, s'il avait écrit sa vraie vie,
oui,
plutôt que s'en inventer une autre pour faire du mal à sa famille, s'il avait raconté ses planques, ses faux papiers, ses escroqueries, sa cupidité, enfin, je veux dire, si il y a des, en littérature, il y a des grands ouvrages littéraires écrits par des gens qui par ailleurs ont été des voleurs. Moi, j'ai pas de jugement moral là-dessus, mais
non, on n'a pas de jugement moral.
Est-ce que son écriture et son talent d'écriture mis au service de sa vraie vie, est-ce que ça aurait pas été infiniment plus fort et infiniment plus vigoureux? Pourquoi mettre ce talent au service simplement finalement d'une énième escroquerie et d'une énième malversation?
Et dénonciation, ce qui est un peu... Alors en plus, vous dites, il se serait fabriqué plusieurs identités, Gaston Pujol, Jean Mauve, Lacour, sous lesquelles il loue des chambres pour percevoir à ses adresses ses mandats, parce qu'il faut toucher les mandats de tout ça, c'est-à-dire c'est très bien organisé. Alors il passe en conseil de discipline à la poste et les trois s'accordent, ils ont affaire à un psychopathe constitutionnel atteint de dégénérescence mentale qui agit sous l'emprise d'une force pathologique irrésistible. La nuance compte, ses troubles de conduite, il s'en fiche, il emporte, voilà. Donc c'est quand même...
Amusant, c'est triste, mais à l'époque, quand on lit les comptes rendus des psychiatres, ouais, il en a vu beaucoup, c'est les psychiatres émettent beaucoup de jugements moraux. Ça m'a surpris. Donc il note qu'il est qu'il n'est pas doté de sens moral.
Écrit à la plume que le malade manifeste de nombreuses bizarreries du comportement. Elles sont listées: perversion au pluriel, vol de camarades, vol de parents, fugue, indiscipline, trouble du caractère, et cette conclusion ne peut accepter aucune règle extérieure. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il est libertaire? Je n'en sais rien. Pas forcément.
Mais je ne pense pas, non. Qu'il pense d'abord à lui.
Je pense que c'est surtout quelqu'un qui pense à lui. Et vous dites d'ailleurs, vous parlez d'un narcissisme...
Pathologique. Oui, libertaire, je ne sais pas. Je pense qu'il pense d'abord à lui. Il pense à son enrichissement, il pense à piquer les trucs des autres. Il n'est
pas du tout altruiste en plus.
J'allais lire à l'instant, il n'a aucune vision généreuse. Il va laisser salement tomber son frère Ferdinand. Il va continuer de mentir à tous les gens de sa famille. Je répète, à son seul bénéfice. Et ce qui est d'ailleurs dingue dans l'histoire, c'est qu'une fois qu'il va avoir le succès qu'on lui connaît, très vite, grâce à Vipère au Pain, et récupérer sa part d'héritage, enfin j'accélère un peu l'histoire, mais c'est ce qui va se passer à la fin. La première chose qu'il va faire, c'est qu'il va s'acheter un très joli manoir, récupérer tous les meubles de la famille, mettre des portraits de famille, des photos de sa mère. Il a fait un succès en tapant sur la bourgeoisie, en les présentant comme des êtres étriqués, etc. En fait, son aspiration profonde, c'était d'en être un lui aussi.
Oui, voilà.
Avec la grosse baraque, les hortensias, les rosiers, les tableaux, les belles armoires.
Très nouveau riche aussi, on est très...
Oui, donc c'est un personnage, bon, ça le rend aussi passionnant, mais...
Ouais. Alors, vous montrez aussi que son attitude par rapport à sa mère, c'est qu'il la rendra un peu responsable de la condamnation. Enfin, il avait une jeune femme, enfin son premier amour, je crois que c'est pour une certaine Noémie. Et il va devoir rompre avec elle. Vous racontiez cette histoire parce que c'est un amour empêché en quelque sorte. Oui. Et vous dites que quelque part, vous dites Noémie et Paul, deux femmes refusées qui le rendirent insatiable.
Alors, Noémie, il en parle dans son œuvre à plusieurs reprises. Enfin, sans la nommer, il lui donne un autre prénom qui m'échappe à la seconde, mais le vrai prénom est Noémie.
Oui.
Donc c'est une famille des amis d'Hervé Bazin, une autre famille bourgeoise comme eux, qu'ils rencontrent l'été en Bretagne, et ils tombent follement amoureux de cette jeune femme qui a l'air absolument charmante. Et les parents d'Hervé Bazin s'inquiètent, beaucoup le père, parce qu'Hervé Bazin sort d'asile psychiatrique.
Oui, oui.
Et,
il faut dire qu'à 20 ans, il en avait déjà fait...
Un seul. Ouais. Mais bon, il avait été interné à 19 ans. Et donc, quand son père voit qu'il se lie avec cette fille de leurs amis, bah, il est inquiet pour cette fille, il est inquiet pour la famille de cette fille, il est inquiet pour sa réputation sûrement. Il se dit que si cette jeune femme persévère à être amoureuse de son fils, qui n'a pas l'air sain d'esprit, ça va poser un problème. Donc, il lui demande de rompre. Il l'oblige à rompre. C'est une grande, grande blessure pour Hervé Bazin. Et là, par un subterfuge de l'esprit d'Hervé Bazin, au lieu d'écrire que c'est son père qui est à la manœuvre, j'ai vu les lettres pour le faire arrêter cette liaison, il va toujours dire que c'est sa mère.
Oui, c'est
non,
ça.
C'est
toujours
son père,
sa mère à charge. Quoi.
C'est son père, pour, certainement par un souci de réputation, de qu'en dira-t-on, mais... Bon, finalement, moi, je comprends un tout petit peu l'inquiétude de ce père, de se dire que cette jeune fille qui avait l'air encore très naïve et qui sortait à peine de l'école, l'a laissé s'engager dans une relation durable avec son fils qui sortait d'asile. Bah, il n'a pas dû dire, il a pas dû vouloir le dire. Il voulait protéger son fils. Il a pensé que c'était plus simple de les faire rompre. Mais ce qui est étonnant, c'est comment, là encore, il a tout porté sur sa mère. Et alors que ça n'est pas elle qui est à la manœuvre, c'est lui. Et je me pose la question, parce que j'essaie d'avoir une vision très subjective, mais en même temps un tout petit peu objective, j'essaie de me demander que se serait-il passé si on avait laissé ce garçon aimer. Si sa mère avait été tendre et aimante, ce qu'elle n'était pas, si cette jeune fille, si on l'avait laissé construire une histoire amoureuse, est-ce qu'ensuite ce serait passé différemment? Mais ça, je ne peux que poser des points d'interrogation. Mais c'est certain que ses sentiments ont été empêchés.
Ouais, c'est... Alors, le père, en plus, mandate un détective, René Faralic. Alors, c'est l'ancien commissaire divisionnaire de la ville de Paris qui arrêta 10 ans auparavant, rue de Rochechouart, Henri Landru, l'assassin de 11 femmes. Donc, il y a tout un contexte romanesque. Oui.
Mais je présume que ce détective devait être une star de l'époque. Quand on avait réussi à attraper Landru, on devait un peu être... Oui, parce que Hervé Bazin fugue, alors, enfin, il a toujours fugué des asiles psychiatriques. Le dernier, il a fugué six fois. Et il y a une période, si je ne me trompe pas, c'est l'année 1935, où tout le monde le cherche et personne ne le trouve. Donc la police, les asiles, la justice, il va se cacher de longs mois dans Paris, avec ses faux papiers d'identité. Et donc, son père, qui est très inquiet, le fait rechercher. En fait, ce que son père voudrait toujours, et c'est ça qui est bouleversant dans les lettres que ce pauvre monsieur écrit à la terre entière, l'obsession de son père, c'est que son fils échappe à la justice et échappe à la prison, et qu'on comprenne bien que son fils est malade. Lui, il est persuadé que ça n'est pas un escroc, il est persuadé qu'il est juste malade, et il voudrait qu'on le soigne.
Oui.
Et donc, quand il mandate le détective, et donc, je pense pour essayer que son fils
il
soit...
Il couvre son fils.
Bah, enfin, toujours, il essaye à sa façon de... Ouais. Mais bon, la police va le retrouver avant le détective. Le détective n'était pas si doué, finalement.
Vous dites, en novembre, Jean le fugitif est arrêté au 22 rue de Douai à Paris, en compagnie d'une jeune femme, Renée, âgée de 19 ans. Il y louait une chambre sous le nom imaginaire de Vicomte de Roincé. Il possède alors une dizaine d'identités, Lombrie, Quillotin, Haute-Pont, Trévelin, Célestin Vidal, Jean Arnestal. 3 jours plus tard, il est conduit à la maison de la santé sous le numéro d'écrou 29-67-61 et inculpé. Et c'est vrai que, bon, mais dans toutes ses fugues, il a une fixette sur sa mère. Par exemple, je vous dis, il emporte que ses habits, car c'est sa mère qu'il veut récupérer, contrainte, posséder. C'est elle, son odeur, ses tissus portés le long de son ventre et de ses cuisses, ses tenues achetées quand il l'a abandonné petit chez sa grand-mère. Il veut ça, combler ce manque qui le rend fou. Une fixette, hein, vraiment.
Oui, quand il cambriole le château familial, il vole des vêtements de sa mère. Non, ouais. C'est pour ça que je sans faire d'anachronie
non,
ou d'uchronie, mais on peut se demander si ce serait passé si cet enfant avait été très tôt confié à des médecins sachant faire. Il a une obsession de sa mère, une obsession qui est devenue une haine farouche, mais qui était certainement...
Et sans savoir, ça lui a inspiré un personnage de roman qui a passé la postérité. Donc, c'est un grand romancier quand même.
Absolument.
Folcoche, c'est vrai qu'elle passe la postérité. On va faire une pause musicale avant de reprendre notre filature du côté de Hervé Bazin, Billy Lanez.
Alors là, j'avoue que j'apprends. Garçon par... Sage comme des sauvages.
Égo en droit, mais ça dépend du lieu. Soit t'es ok, soit t'es KO, soit tu meurs bien, soit tu le vis.
Pardon, je me suis trompée. Là, c'était Agnès Bill, ça sera pour tout à l'heure. Garçon par sage comme des sauvages.
Garçon, tu es bien mal habile, mille pile. La fête, ton foie te fait vomir la bile, bile, bile. Le son de ta voix ne sonne pas crédible, dible, dible. Tout ça pour oser parler aux filles, filles, filles. Tu te mets la pression. Impossible, cible, cible. T'ensemble, elle semble invincible, cible, cible. Tout au fond de ton fond, ça ne va pas terrible, rible, rible. Tout devant, devant, ton sourire fait semblant, semblant, semblant.
Toujours sur Radio Libertaire 89.4, vous écoutez l'émission Bibliomanie aujourd'hui avec Émilie Lanez pour Folcoche, ça vient de paraître aux éditions Grasset. Émilie Lanez, on parle d'un drôle de loustique, Hervé Bazin, Jean Hervé Bazin de son vrai nom, mais Hervé Bazin, personnage plus ou moins sympathique, mais on ne fait pas de la littérature avec des bons sentiments. Alors, avec les femmes, il a des relations particulières quand même. Hein. Il a à peu près 4 femmes. Alors, j'ai noté, premier mariage avec Odette Doningen. Après, il épouse il a un fils qui s'appelle Jacques. Après, il épouse en seconde noce Jacqueline Dussolier en 45. Il aura 4 autres enfants. Après, il va épouser Monique Serre de 22 ans, sa cadette. Donc, je crois qu'il aura un enfant avec elle. Et après, sa dernière épouse, je crois que c'est Odile Lhermitte. Donc, ça fait 4 femmes et 5 enfants. Enfin...
Et un enfant avec la dernière épouse.
Voilà.
Qui aura donc 57 ans de différence, cet enfant avec le frère aîné, quoi. Hervé Bazin, dans ses enfants, il y a 57 ans de différence entre le plus âgé et le plus jeune.
C'est fou.
C'est particulier.
Ouais. Je dirais pas qu'il a un côté barbe bleue, mais enfin, il a un côté... sa relation avec les femmes. Alors, vous dites aussi que sa mère, quand il y a Vipère au Poing qui paraît, elle fait semblant de pas l'avoir lu. Enfin, il y a tout un rapport à la lecture par rapport au succès de son fils. Et finalement, cette femme... qui n'a pas le droit à la parole, va se taire. Et par son silence, elle va protéger son fils. Ce silence-là va le protéger.
Elle va le protéger, et je suppose, elle a très peu écrit, elle, donc là, je ne peux que supposer,
oui,
qu'elle va le laisser ainsi, aussi douloureux que cela soit, elle va le laisser devenir l'écrivain qu'il a toujours voulu être.
Sortir de sa chrysalide.
Voilà. Et donc, à ses dépens, elle, en se sacrifiant, elle, mais elle comprend que c'est donc ce qu'il a toujours voulu faire, écrire. Elle le laisse écrire. Et ce qui est frappant, c'est qu'à compter du succès de ce livre, il arrête de voler. Quand il sort de ses 4 ans de prison, il vole quand même encore une fois. Il est dans les archives de presse en 46, il est sorti de prison en 45, il fait encore un cambriolage avec son frère. Mais à partir du succès de Vipère au Poing en 48, il ne vole plus. Comme s'il y avait la kleptomanie ou l'écriture. Et donc sa mère...
Il vole la vie des autres, par contre.
Voilà, il vole la vie des autres. Ben oui, voilà, vous avez raison, c'est pour ça qu'il n'a plus besoin, et même le nom de famille des autres. Mais... sa mère, donc je répète qu'elle a peu écrit, donc je suis dans le registre de la supposition, elle est quand même très courtisée par la presse, parce que la presse, évidemment, se dit « Ah, c'est qui ce monstre? Comment elle vit tout ça ?» Donc il défile dans son château qui est en fort mauvais état. Il défile pour l'interroger. Elle ne dit rien. Elle ne dit rien. Il y a dans cette tenue, dans cette forme de dignité, elle avait tous les moyens, mais tous les moyens de dire « Mon fils, je suis très contente de son succès, mais ce qu'il raconte, je vous préviens, c'est pas du tout une biographie, c'est n'importe quoi, c'est un roman, il a tout inventé. » Elle dit pas ça.
Ouais.
Elle ne dit pas ça. Elle dit rien et elle le laisse. Je ne peux y voir qu'une forme de sacrifice. Et d'ailleurs, le reste de la famille fait comme elle.
Hein. Oui.
Le père est mort déjà, mais les frères ne disent rien, les oncles, les tantes, alors qu'ils s'écrivent toute la journée des lettres pour dire combien c'est horrible pour eux, combien tout est faux, combien tout est mensonger. Et ils se taisent et lui continue. Donc, parfois, il y a un oncle qui lui écrit, dis donc, tu pourrais y aller un peu moins fort, là, quand tu fais tes émissions de radio, tu sais... tu racontes un peu n'importe quoi sur nous, nous aussi on aurait des choses à dire. Il répond pas, il continue. Donc il le laisse faire tous, ils sont, je pense, un peu tétanisés par son succès aussi.
Oui, ils sont, et puis il y a aussi ce que vous dites, il y a la honte.
Oui, les deux.
Vous dites, est-ce que c'est la honte et la peur de la honte qui est... la clé de cette omerta aussi, parce qu'à l'époque, en plus, c'est tout un contexte, c'est même plus comme maintenant. Je dirais presque maintenant, l'autofiction est devenue à la mode. Enfin,
oui,
les réseaux sociaux, maintenant, c'est le déballage en continu, tandis qu'à l'époque, c'était l'inverse.
Oui, c'était honteux, singulièrement à l'époque, certainement aussi dans leur milieu. Quand le livre sort, il fait un scandale retentissant. Enfin, il y a des familles... vous me demandiez si... enfin, l'autre jour, j'étais dédicacée dans une librairie.
Oui.
Une dame assez âgée qui était là, qui avait grandi à Angers, me racontait qu'enfant, on lui avait interdit de lire Vipère au Poing. Donc, le livre fait un scandale terrible qui pèse évidemment sur cette famille qui sont présentées comme des monstres et qui se taisent.
Il faut dire que c'est un succès aussi colossal, c'est le roman de la révolte. En 1950, il s'est déjà vendu à plus de 5 millions d'exemplaires, hein, c'est ce que vous...
Alors, pardon,
c'est... Et aussi, c'est un produit, comme pour Radiguet, c'est un produit éditorial. Voilà, parce que ça, vous le révélez, Émilie Ladin.
Ça, c'est amusant, c'est que c'est le début du marketing éditorial.
Oui.
C'est-à-dire que Bernard Grasset, qui a eu des petits problèmes à la Libération, parce que sa maison a continué de travailler pendant la Deuxième Guerre mondiale, n'a pas un sou en caisse, il a lui-même beaucoup de soucis judiciaires, et donc il va essayer de lancer ce bouquin d'un type totalement inconnu, Hervé Bazin, et il va essayer de le lancer comme aujourd'hui on lance les livres, c'est-à-dire comme une marchandise, comme un produit.
Oui.
Donc comme il n'a pas d'argent pour acheter de la pub, il va aujourd'hui on dirait utiliser des influenceurs, mais c'est pas tout à fait ça, mais enfin il va organiser un bouche à oreille, il va faire un bandeau très racoleur, enfin il invente Bernard Grasset la publicité littéraire avec ce livre, et ça marche très bien, très vite, d'emblée. Et évidemment, rien de mieux pour qu'un livre marche que de faire du scandale autour du livre.
Oui, bah lui en plus... Alors vous dites Hervé Bazin pratique la dissuasion littéraire. Donc finalement, plus il va loin, plus son entourage est tétanisé.
Oui.
Moins on ose lui résister, en quelque sorte.
Oui, et il n'arrête jamais. Je vous le disais, quand un de ses oncles lui écrit « Est-ce que tu peux arrêter de dire que tout ça est vrai ? Tu sais, nous aussi, on aurait beaucoup à en dire sur toi. Est-ce que tu peux arrêter de dire que tout ça est vrai ? Est-ce que tu peux dire que c'est en partie inventé ?» Et alors, il dit « Oui, oui, oui. » Non, il ne répond pas, d'ailleurs. Il ne répond pas à cet oncle. Et la semaine suivante, il est invité à la radio. Il dit « Tout est vrai, j'ai vécu tout ça. Ma famille était monstrueuse. » Bon, bah, au bout d'un moment, la famille arrête. Et ce qui est assez spectaculaire, c'est qu'en 2024 ou 2025, quand je les rencontre, je les ai sentis comme encore un peu embarrassés par ce
moment. Encore sous le choc, finalement.
Encore sous une forme de...
D'Omerta, encore.
Oui, enfin, en tout cas, ils portent un nom qui est une gloire paradoxale. C'est-à-dire qu'à la fois, leur grand-oncle... Et cet écrivain célèbre et connu, mais il est écrivain célèbre et connu pour avoir dit que sa famille était terrible. C'est quand même compliqué comme positionnement.
C'est compliqué. Alors vous dites, Folcoche, l'ogresse de papier, absorbe Paul, c'est très terrifiant, déforme son visage, son menton pointe, et la mère s'efface, disparaît, à croire que son fils l'a recréé en caractère d'imprimerie. C'est ça aussi, ça montre aussi l'enjeu de l'écriture, l'enjeu de la fiction, comment un écrivain, par-delà Hervé Bazin, c'est ça aussi qui est intéressant dans votre livre, Émilie Ladin, c'est que par-delà le cas d'Hervé Bazin, ça montre comment on devient un romancier, quels sont les risques du métier, j'allais dire, et comment un personnage de papier rentre dans notre imaginaire. Parce que c'est vrai, Vipère au Point, qui était derrière le premier tome d'une trilogie, hein, je crois, de mémoire, c'est rentré dans notre inconscient aussi, dans notre
absolument.
Ça marque un temps de la révolte adolescente, enfin préadolescente.
C'est d'ailleurs une des choses qui m'a agréablement surprise à la parution de mon livre, c'est de me rendre compte que en 2025, Vivère au Point, c'est un livre qui nous parle à tous. Et moi, franchement, ça me fait plaisir de voir qu'on a encore des livres en commun. on a un patrimoine littéraire commun. Et le livre, il est encore lu en classe aujourd'hui. Enfin, j'ai des enfants de mon entourage au collège et même certains au lycée qui lisent encore Vipère au Point. Mais on l'a tous lu. Et on le lit tous au même âge. On le lit tous au collège, quoi. Quand on commence nous-mêmes à trouver que nos parents sont nuls, on nous donne ça à lire pour nous dire, ben oui, on a tous été adolescents, mais regardez, d'un adolescent en colère peut devenir un écrivain président de l'Académie Goncourt. Donc, on s'est présenté un peu comme une révolte adolescente édifiante. Ça, je dois dire que l'écriture de Vipère au Point est vraiment très forte, très vigoureuse pour l'époque, très choquante, mais le style est assez extraordinaire. Mais donc, je crois que Vipère au Point est une de nos premières lectures romanesques à tous. Et je ne sais pas combien de temps dans ce pays nous continuerons à partager des livres, mais disons qu'aujourd'hui il y en a encore quelques-uns.
Oui. Il y en a un, c'est un livre détonateur. Oui, voilà. Et la révolte.
Oui.
Pour écrire, il faut être révolté. Il faut être ça. C'est le côté positif, j'allais dire aussi de cette vie d'Hervé Bazin. C'est vrai qu'il faut être. Il rentre en littérature par effraction.
Mais comme je vous disais, il aurait pu écrire avec la même vigueur et la même verve et la même révolte. Ouais. Quelque chose de plus vrai.
Oui, bien sûr.
Et son style aurait été le même.
Peut-être. Alors, c'est vrai qu'il rate le concours. À troisième tour de vote, les jurés lui ont préféré les grandes familles de Druon, récits plus édifiants, dites-vous, que son précipité de bile. Aussitôt, l'éditeur Bernard Grassier fait imprimer des bandeaux. Vipère au point hors concours. Ah bah lui, là, les ventes explosent. Donc, c'est un phénomène de commercial, on peut dire, un succès commercial. Mais quand même, moi, je vous disais hors antenne, mais comment ça se fait que le poteau rose, on ne l'a pas découvert aussitôt que ça, qu'en 2025, quand même, Hervé Bazin. Il faut dire qu'il a été président de l'Académie Goncourt. Il a été député européen aussi, socialiste, député européen. Donc, c'est un homme qui avait du pouvoir. Hervé Bazin, c'était pas rien dans le paysage littéraire. Hein.
Il avait beaucoup de pouvoir. Il faisait peur. C'est un personnage...
Inquiétant.
Oui, autoritaire. Ouais. Il y a eu quelques tentatives de biographie. Enfin, certaines ont abouti à faire des vraies biographies.
Pierre Viau, par exemple, le petit-fils de l'écrivain Pierre Loti. Il faut que vous nous racontiez ça.
Ah oui, je vous raconte ça après. Mais ce que je veux dire, c'est que ces biographes, qu'il voyait en entretien, bon, il relisait tout, il corrigeait tout. Donc, en fait, il a maintenu un système qui reposait sur son immense notoriété. Pour que rien ne sorte, il a expurgé ses archives, il a tout ordonné. Enfin, il a lui-même...
Oui, il a organisé
sa légende. Et il faisait peur. Enfin, il pesait énormément. On ne se rend pas compte aujourd'hui. Il pesait énormément sur la scène littéraire des années 70-80. Donc, vous évoquez Pierre Viau.
Oui,
alors, Pierre Viau, c'est...
Que je vous cite. Soudain, en printemps 1951, coup de tonnerre, Pierre Viau... 46 ans, petit-fils de l'écrivain Pierre Loti, publie à compte d'auteur un livre, Les grelots de Triboulet, texte vulgaire et mal écrit, dans lequel, bien que déguisé en Jean sous le pseudonyme de Joubert Craon, il révèle sa vraie biographie, récit dévastateur. Il raconte l'avoir connu à la prison de Fresnes, puis il déroule son activité d'écrivain public, parce que c'est vrai qu'il était en plus écrivain public, Hervé Bazin, la revue littéraire, le mariage avec la secrétaire, le fils abandonné, le grand-oncle académicien, l'autre ecclésiastique, il l'accuse d'avoir fait interner son frère Ferdinand et le peint avec force détail. Voilà, c'est le premier, Pierre Viau, qui s'attaque un peu à la statue du commandeur, j'allais dire.
Oui, c'est le premier et ça sera pendant très longtemps le dernier. Donc Pierre Viau, c'est vraiment un de ses amis parce que je ne sais plus si c'est Hervé, je crois que c'est Hervé Bazin et le parrain de la fille de Pierre Viau.
Ouais.
Hervé Bazin va dédicacer... son livre dans la librairie de Pierre Viau. Ils sont vraiment très proches. Ils ont été incarcérés au même moment. Ils se connaissent donc très bien. Et en 1950 ou 1951, Pierre Viau écrit ce livre, qui est un livre codé, mais enfin, c'est codé vraiment pour faire semblant, de laquelle il raconte que tout ce que dit Hervé Bazin est totalement faux. Quoi. Qu'il n'a pas été résistant, que sa mère n'est pas monstrueuse, que sa famille n'est pas si terrible, et que c'est lui qui est un escroc, un manipulateur, qui cambriole les chambres de bonne. Donc il raconte, en utilisant des pseudonymes, enfin les pseudonymes ne cachent pas grand-chose. Et donc ça va faire un énorme scandale dans la presse, parce qu'on a le petit-fils de Pierre Loti versus l'écrivain à succès, lui-même petit-neveu de René Bazin, écrivain académicien. Et donc la presse va organiser une forme de duel, la guerre des petits-neveux. Et François, qui à l'époque a un énorme tirage, somme Hervé Bazin de répondre à ce livre où on dit que tout ce qu'il a écrit est faux, que c'est lui l'escroc. Et là... Quand même, ce garçon avait de la chance, Hervé Bazin. Il fait une réponse assez laconique au téléphone. Et il fait envoyer à François un extrait de son casier judiciaire, qui est vierge. Et qui est vierge parce que, un mystère, dans les archives, on trouve beaucoup, beaucoup de choses, mais on ne trouve pas toujours tout. Et on ne trouve pas toujours les interventions qu'il y a eu derrière les archives.
Ouais.
Son casier judiciaire a été totalement expurgé. Alors j'ai cherché vraiment beaucoup, beaucoup qui était à l'origine de ce blanchiment ou de ce nettoyage. Quel est l'officiel français qui a pensé que le grand écrivain Hervé Bazin qu'on pouvait nettoyer tout ça. Je dois dire que je n'ai pas trouvé. Mais son casier judiciaire est vierge, et donc il l'envoie à François, et donc là, Violetti ne peut plus rien dire, et donc il va donner une dernière interview en disant bon, qu'il ne comprend pas trop comment son casier a été blanchi, mais que lui voulait simplement dire, et il a une expression géniale, qu'il voudrait juste que son camarade Hervé Bazin arrête de se faire passer pour un vitrail d'église, ça m'a fait rire l'expression, et puis il ne parlera plus jamais. Mais Hervé Bazin, je pense, a eu très peur. Il a eu très peur parce que... Et en fait, je pense que ce grand mythomane qu'il était, je pense quand même, tout mythomane qu'il était, qu'il avait un fond de trouille quand même. Parce que dans les asiles psychiatriques, il avait des camarades en prison, il avait des compagnons de cellule, il y a des psychiatres qui l'ont vu, les flics qui l'ont cherché. Donc, il y avait des gens qui savaient, forcément. Et donc, il maintenait évidemment quelque chose de très tendu et de très autoritaire, mais il devait vivre dans une forme de crainte. Enfin, je présume. Je raconterais des tels mensonges, j'aurais peur que quelqu'un vienne dire un jour, non, c'est pas vrai.
Ou peut-être mais aussi ça a tenu très longtemps. Peut-être l'inverse, peut-être qu'il y avait une joie un peu malsaine. De...
Une jouissance, oui, ouais. La jouissance du mythomane. Ça, oui.
D'aller de plus en plus loin, de voir jusqu'où il pouvait aller. Il allait très loin, parce qu'il semble aussi très lucide sur son cas. Alors, je ne sais pas si c'est lui qui précise, je pense à votre livre. La déconsidération totale dont jouit Madame Notre Mère est en partie mon œuvre. Une œuvre détestable, d'ailleurs. Au besoin, j'irai plus loin, j'en ai assez. Enfin, il y a une lucidité. Ce n'est pas quelqu'un qui. Il fait feu de tout bois.
Il a des éclairs de lucidité. C'est un manipulateur hors pair. Et là où c'est un mythomane exceptionnel, mais c'est peut-être ça être mythomane, c'est que il se met de plus en plus devant de la scène. Et donc, je raconte dans mon livre qu'il va faire croire qu'il a été résistant.
Oui, ça c'est quand même...
Alors, il ne le fait pas du tout quand sort Vipère au point. Je rappelle que ça sort en 48, c'est pas trop le moment d'avoir fait semblant d'avoir été résistant. Enfin, c'est en tout cas plus dangereux. Il ne le fait pas non plus dans les années 50. Il commence un tout petit peu dans les années 70. Et ça, je l'ai vu dans les interviews qu'il donne, dans les articles qui lui sont consacrés. Il raconte une première petite histoire, ça passe. Donc, il en raconte une deuxième, un peu plus...
Oui.
Avec plus de détails. Et en fait, aujourd'hui, quand vous regardez certaines éditions de scolaires de ses livres, etc., il est écrit qu'il a été résistant. Mais c'est totalement faux pour une raison très simple, c'est que pendant toute la guerre, il est dans une cellule à Clairvaux.
Ouais,
ça passe.
Tout passe, en fait. Et même, je dirais, avec aussi l'aide de la légende éditoriale.
Parce bien que sûr, bien sûr.
L'éditeur déjà le rajeunit de 7 ans.
Oui, ben ça aide, oui.
Donc il aide à construire ce personnage.
Et il a bien maquillé les dates, hein, parce que l'éditeur le rajeunit de 7 ans. Lui-même place l'histoire de Vipère au point, qui en réalité se passe dans les années 20. Il le décale dans le temps des années 30, ce qui, rétrospectivement, était assez malin. Parce que du coup, il se rajeunit lui-même dans son soi-disant autobiographie, mais du coup, ça détache l'attention de ce qu'il a fait de 35 à 45. Donc, c'est assez bien foutu, son truc. Hein.
Très bien foutu. Alors, je voudrais citer cet autre extrait, ça, c'est quand il y avait toutes ces quand vous parlez de toutes ces vies, parce que là, c'est le côté sympathique, là, quand même, avec tous ces identités qu'il s'invente. Ça, on revient un peu au rétrograde, un petit peu en arrière. À côté de ses activités de monte en l'air, dites-vous, Émilie Lanaise, l'ancien prisonnier se lance dans le commerce de bonneterie, de tissus, de lots de bois, d'aluminium, de fer, de lits, de bas pour femmes qui ne file pas, et dans le même temps, il ouvre un bureau justement d'écrivain public à son domicile du 14e arrondissement de Paris sous le nom de Nick Dosance. Donc voilà, c'est un truc...
Il avait besoin d'argent.
Oui.
Donc il fait beaucoup de trafic, il achète des marchandises. Après la guerre, il y a beaucoup de stocks à acheter, à revendre...
Ah bah lui, il recycle, hein. C'est le roi du recyclage.
Il recycle.
Même le titre de sa grand-mère, il l'a recyclé sans problème.
Il recycle, il est très entreprenant. Il a besoin d'argent, il n'a pas de métier et il n'a pas accès à l'héritage de son père. Hein. Donc il faut qu'il trouve des petits commerces. Et donc ça va marcher un temps, mais c'est une des raisons pour laquelle l'interdiction judiciaire à laquelle le contraint ou sous le statut duquel sa famille l'a placé l'agace, parce que pour tous ces business là, il faut créer les entreprises, il faut avoir un compte en banque, il peut pas, il est interdit judiciaire, ça veut dire qu'il est en incapacité judiciaire. Et donc ça c'est une des raisons de sa colère, c'est qu'il leur écrit d'ailleurs, vous m'empêchez d'avoir une vie avec votre interdiction, je peux pas monter l'entreprise, donc il doit toujours faire les subterfuges, les identités de sa femme, tout ça. C'est
ouais. Mais en même temps la roue va tourner, il a de la chance, hein. Il a quand même de la chance. Donc il y a sa grand-mère en 1954 qui meurt, la mère donc il y a des histoires d'héritage, hein, je fais assez court. Et il va réussir quand même à racheter à son frère la nue propriété du pâtisse, donc du château. Et donc là, il va être un peu complice avec sa mère, parce que sa mère aussi, il y en a, je crois que c'est Pierre qui... Enfin, il y a des conflits d'héritage, donc finalement, ça va un peu les rabibocher, d'après ce que j'ai compris, Émilie Ladaise.
Ça va les rabibocher, et je pense qu'ils ont en commun Paul Guillotot, dit Folcoche, et Jean-Hervé Bazin, dit Hervé Bazin, ont en commun... une certaine soif de possession et donc à la mort de la grand-mère en 54, Hervé Bazin n'est plus le délinquant mythomane échappé d'asile, c'est l'écrivain en vue dans Paris. Il a des gros moyens, à l'époque on gagne beaucoup avec les livres,
oui.
Il a des gros moyens et sa mère va se rabibocher, oui, pour qu'il rachète le château familial et qu'elle en ait l'usage. Je ne sais plus si c'est le terme exact, c'est usufruit ou nue propriété, enfin,
oui,
je m'en mêle, mais enfin,
voilà.
Elle lui demande de racheter la part de son frère pour que elle puisse vivre dedans. Et c'est ce qu'il va faire, d'ailleurs. Et dès que sa mère va mourir, il va vendre la propriété familiale, contrairement à ce qu'il a toujours dit, et il va la vendre en lots, parce que les lots, ça rapporte plus. Donc il va couper tout en 6 morceaux, il va obliger le fermier d'à côté, s'il veut aller pêcher à la rivière, de lui verser un droit de servitude de 6 canards par an. Donc le grand écrivain richissime exige du pauvre fermier d'à côté 6 canards par an pour avoir le droit de pêcher ses poissons en rivière. Enfin, la pensée est quand même étriquée, hein.
Ouais. Et vous parlez aussi d'ailleurs, il est assez menaçant, on parlait tout à l'heure de l'homme de pouvoir, Hervé Bazin, je crois qu'il y a un dénommé Jean Loisé, qui lui aussi a voulu dénoncer, enfin, à son tour, révéler au public.
Et qui s'est fait, auquel Hervé Bazin va faire très peur. Donc il lui écrit une lettre, et il le menace en lettre capitale. Il lui dit que s'il poursuit dans cette veine de recherche biographique, il mettra tout le monde de l'édition contre lui. Et il lui écrit, j'ai plus la citation exacte, mais extraordinaire, il lui dit que c'est vraiment dégoûtant de se pencher sur la vie privée des gens et d'essayer d'en faire un livre, que c'est monstrueux, qu'il a le droit au respect de sa vie privée. Enfin donc, il fait très peur à Jean Loisé, qui d'ailleurs ne va jamais pouvoir faire ce livre.
Mais oui, c'est ça. Donc il avait entrepris d'écrire Les Clés d'Hervé Bazin.
Voilà. Mais moi, je pense qu'il avait tout trouvé, Jean Loisé. Je pense qu'il avait trouvé les archives de police. Enfin, je le présume, parce que pour que Hervé Bazin lui écrit la lettre est d'une vraiment, elle est très très menaçante. Donc je présume pour que ce soit menaçant à ce point, c'est qu'il avait trouvé des vraies informations, celles que je retrouverai quelques décennies plus tard. Mais il va reculer, oui.
Oui, mais vous, c'est bien, vous n'avez pas reculé. Alors, votre
non,
dernière...
C'est plus facile.
Ouais. Votre dernière phrase, c'est « Maudite célébrité, masque cruel, imposteur légendaire ». Là, on a tout le livre. « Maudite célébrité, masque cruel, imposteur légendaire ». C'est vrai que vous avez été chercher derrière la légende, Émilie Ladaise, le vrai personnage, qui est un personnage de roman, parce que là, ça peut... Voilà, votre livre pourrait faire aussi l'objet d'un film.
Ben, je vous remercie de le souligner, parce que... Je vous remercie de dire ça parce que ce qui me tenait à cœur, c'est non pas de. Il faut continuer de lire Vipère au
oui,
point
voilà.
Si on a envie de lire Vipère
oui,
au point.
Tout à fait.
Et quand vous et moi, je vous remercie de dire que c'est un personnage de roman. Moi, c'est ce que je suis contente d'avoir fait, en tout cas, ce qui m'a passionné de faire, c'est de mettre dans le roman un roman.
Oui, c'est ça.
Il y avait dans le roman littéraire imbriqué à l'intérieur, enchâssé à l'intérieur, un autre roman. vrai, celui-là. L'histoire de Paul Guillotot Folcoche et de son fils. Et c'est ce roman vrai-là que j'ai voulu faire apparaître à la lumière, et ce qui, selon moi, rajoute de l'intensité romanesque à la lecture de Vipère au Poing.
Est-ce que pour vous, écrire, c'est aller au-delà des archétypes, c'est-à-dire de vous allez vraiment au-delà de l'image qu'on a d'un... Ben oui, c'est un voyage, votre livre, dans les coulisses de la création d'un personnage. Comment aussi crée-t-on nos vies? On peut aussi réfléchir sur ce test-là.
Absolument.
Parce que là, c'est Hervé Bazin, il est connu, il est... Mmh. Mais comment on crée...
C'est rien. Je le disais tout à l'heure, moi, je suis journaliste. Donc, je suis quand même censée, toute la journée, trouver des informations exactes et justes, et de préférence vérifiées. Et je trouvais intéressant de... Enfin, la fiction, la littérature, c'est aussi un terrain d'enquête. Et c'est ça qui m'a intéressée, c'est de remettre de l'enquête journalistique dans la gloire littéraire, qui finalement est un terrain d'enquête comme les autres, sauf qu'on y va moins. Et cet archétype de la mauvaise mère, je m'explique. En réalité, j'interroge moins de savoir pourquoi ça a ce point fonctionné. Je pense que ça a ce point fonctionné parce que c'était la première. Il y avait Poils de Carotte à une autre époque, mais ça avoir une mauvaise mère, c'était tellement choquant en sortant de la guerre de dire qu'une mère puisse être mauvaise alors que celles qui ont tout tenu pendant la guerre. Et c'est pour ça que ça a pris à ce point. Et ensuite, personne n'est allé interroger. Et moi, vraiment, je suis un peu contente d'avoir rendu à cette femme abîmée par son fils et abîmée par la littérature, de lui avoir rendu sa contradiction, de lui avoir rendu sa complexité, et d'avoir montré qu'elle était finalement bien plus riche et peut-être aussi bien plus complexe que ce qu'il avait fait.
Elle lui rend aussi sa féminité.
Et sa féminité.
Et sa douceur. Et, sa,
et son amour.
Et son
amour.
Côté d'être humain, son humanité. Parce qu'en fait, il en a fait une caricature.
Absolument.
Ouais. On est très loin, je crois que c'était Alice Sapritch qui avait. Après, il y a eu Catherine Fro qui a.
Oui, absolument.
Alors, je vais. Ah non, on va pas laisser place à la musique. Elle est en arrière.
Pédophilie ou exotisme.
Laisse un peu place à la musique.
Rapporter devises, sexuelles ou pas. C'est du tourisme. Comme ça et pas autrement. Merci papa, merci maman. La vérité, c'est que c'est l'argent qui sort de la bouche des enfants. C'est bien. C'est rien. C'est rien que les enfants de l'inceste. C'est rien que les enfants du mépris. Y'a qu'à pleurer sur ce qu'il en reste. C'est plus que les enfants du gâchis. C'est bien. Et l'enfant dodo, l'enfant morte, celle que j'ai t'aimée, pourquoi faire? De l'enfant donne ce que j'ai pas moi. C'est l'enfance de la colère. Comme ça et pas autrement. Merci papa, merci maman. Si je suis venue au monde de fou. Merci papa, merci pour tout. C'est bien. C'est rien. C'est bon. C'est non.
C'était Agnès Bill. Merci papa, merci maman.
Et voilà, nous discutons toujours de Folcoche. C'est un livre qui vient de paraître aux éditions Grasset. C'est signé Émilie Lanaise et vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4, émission Bibliomanie. Émilie Lanaise, c'est vrai, il y a des phrases clés, je crois, de Vipère au Poing, c'est « Je ne baisserai pas les yeux ». C'est ce que vous avez fait aussi, vous n'avez pas baissé les yeux non plus sur le cas. Comment vous avez écrit ce livre finalement? Parce que là, on parle de cette vie incroyable mais vraie. Est-ce qu'il y a eu plusieurs versions? Est-ce qu'il y a d'abord la partie documentaire qui vous a pris du temps?
Oui, j'ai passé beaucoup de temps à chercher les faits. Et donc ça marchait par une recherche documentaire. Quelques témoignages, mais témoignages de personnes qui sont très âgées aujourd'hui et qui étaient enfants à l'époque. Et ensuite, j'ai passé énormément de temps à essayer de reconstruire une chronologie précise.
Et oui.
Et qui est donc très brouillée à dessein par Hervé Bazin sur les dates. Et à partir du moment où j'avais la chronologie, quand je dis précise, c'est jour après jour, documentée par ce travail d'archives, j'ai commencé d'écrire. Au début, je pense que j'aurais voulu écrire plus sur elle. Mais elle ayant très peu écrit, puisque c'est son mari qui écrivait pour elle, j'ai dû. Enfin, c'est le personnage auquel je souhaitais me consacrer, elle. Mais j'ai peut-être moins pu l'incarner que je l'aurais souhaité, faute de matériaux probants. Mais j'ai un infini plaisir à faire ce travail, et le plaisir de rajouter une part de lumière dans cette histoire. Fascination pour ces personnages. Et une joie, je crois, de dire que la mère monstrueuse n'en était pas une. Que c'était une mère empêchée, maladroite, et qu'elle a fait du mieux qu'elle pouvait. Et moi, ça me touche, ces mères qui font du mieux qu'elles peuvent.
Oui, moi aussi. Et puis, vous révélez aussi, quelque part aussi, parce qu'il y a beaucoup de légendes familiales, finalement. Nous sommes faits de légendes familiales.
Oui.
Et il y a beaucoup de malentendus.
Oui, et dans cette famille, particulièrement, la légende les a à ce point engloutis que, quand je les ai rencontrés, il y avait certains qui se présentaient en disant je suis le petit-fils de Folcoche, je suis la petite-fille de Folcoche. Bah, non, en fait. Ils sont petit-fils ou la petite-fille de Paul Guillotot. Et ils m'ont raconté certains événements qui sont des événements du livre qui ne sont pas vrais. Mais on sait tous que dans les familles, il y a de la légende.
Oui.
Et il y a des récits colportés qui servent, quoi. Mais chez eux, c'est impressionnant.
Et ça me fait penser à une science, c'est la psychogénéalogie.
Absolument. Absolument. Et
familial, vous savez.
Oui, oui, je sais.
Voilà.
Qu'on porte.
Et là, il y a de quoi faire. Hein. Là, y a... Oui. Mais c'est un exemple type. Oui.
Ben, enfin, certains de cette famille m'ont écrit pour me dire que ça les avait touchés, que j'écrive les efforts qu'ont fait leurs grands-parents pour leur enfant malade. Quoi.
Oui. Oui, parce que finalement, c'est comme un morceau du puzzle.
Voilà.
Il y avait un maillot manquant. Il y avait quelque chose qui manquait. Il y avait que la version d'Hervé Bazin. Mais
voilà.
Hervé Bazin, c'était un romancier, créateur de personnages. Donc.
Et donc, les livres d'Hervé Bazin demeurent.
Oui.
Lisent que ceux qui veulent les lire. Mais pour ce pauvre Jacques Hervé Bazin et cette pauvre Paul Guillotot, épouse Hervé Bazin, eh bien, simplement, aujourd'hui, on ne pourra plus dire comme avant que c'était des monstres au cœur sec. J'espère qu'avec Folcoche, aujourd'hui, on se dira que c'est tes parents qui ont fait comme ils ont pu.
Oui, absolument. Et les rencontres avec les lecteurs, quelles sont un peu les réactions de lecteurs? Le livre est paru donc à la rentrée littéraire, là, mais j'imagine, parce que ça fait partie finalement de notre imaginaire, Folcoche,
oui.
Tout ça. Enfin,
les rencontres. Avec les lecteurs, enfin, à chaque rencontre avec des lecteurs, il y a quelqu'un qui vient d'Angers. Je sais pas pourquoi, il se déplace exprès. Et il me raconte que oui, enfant, nanana, ce livre, on n'avait pas le droit de le lire, ou on l'a lu en cachette, tout ça. Bon, il y a toujours un peu un localier de l'étape. On me parle toujours avec beaucoup d'émotion de la lecture de Vipère au Poing, et je comprends pourquoi, on l'a dit tout à l'heure, quand on lit ce livre à 13 ans, 14 ans, on se le prend un peu en pleine figure. Et beaucoup de questions sur la méthode d'enquête, et beaucoup de questions sur ce qu'aurait dû ou ce qu'aurait pu faire Folcoche. Je trouve ça mignon, parce que elle est morte, quoi, donc elle a fait... voilà, et l'autre jour, j'ai une amie psychiatre qui a lu le livre et qui m'a appelée. Elle avait fait l'ordonnance de ce dont ce petit garçon, ce jeune adolescent aurait eu besoin pour aller mieux, mais il n'y avait pas.
Ouais, et vous décrivez aussi, je crois, un peu la fin de vie aussi de Folcoche, hein, de la mère. Enfin, on voit une fin de vie quand même assez triste. Enfin.
Elle est renversée dans la rue, ouais. Elle dit aux ambulanciers qui viennent la chercher qu'elle est la mère de l'écrivain célèbre, et apparemment les ambulanciers devaient être des ambulanciers lettrés, parce qu'ils l'emmènent chez son fils Hervé Bazin, et pas chez les deux autres. Et elle va donc agoniser, mourir chez lui. Et il va faire venir une équipe de reporters de Paris Match qui va photographier littéralement l'agonie de cette femme.
Oh là là.
Le reportage va être publié dans Paris Match. C'est une double en noir et blanc, atroce.
Oui.
Elle meurt. la bouche ouverte, les cheveux collés, les mains crispées sur son drap. Et lui est assis au bout du lit, en costard, avec une cravate. Il prend la pose devant sa mère qui meurt, photographiée par Paris Match. Et donc c'est un coup de pub.
Ouais. Prédation littéraire jusqu'au bout. Voilà, c'est pour ça que je tenais à vous rencontrer et cette émission, parce que j'ai eu beaucoup d'émotions, en tous les cas, à lire votre livre, Émilie Ladaise. Je vais lire les autres livres, vous avez, voilà, et j'espère qu'il y en aura d'autres. Il y a d'autres projets sous le coude, là?
Pas pour le moment, là, je suis encore un peu habitée par ma copine Folkoche.
Mais c'est vrai que... Et puis, vous avez... ça nous fait réfléchir aussi, voilà, sur le voyage des mots, sur ce qu'on fait dire aux mots, parfois. Sur le silence aussi des mots. C'est le silence des uns et des autres, et sur ce qu'on en fait. Est-ce qu'il y a beaucoup d'inédits de Hervé Bazin? Est-ce qu'il y a beaucoup de...
Non, d'inédits, j'en ai pas vu un seul. Enfin, il a tout bien verrouillé.
La correspondance, elle est publiée ou pas? Parce
non,
que moi, je...
Non, non,
voilà.
Non, non. Mais je pense pas que la famille le fera.
Il y a quoi comme correspondance? Correspondance familiale, correspondance avec des autres écrivains?
Les autorités. Sa correspondance à lui. Sa correspondance à lui, elle a été répertoriée par lui, classifiée par lui.
Ah bah oui, voilà.
Et mise à la bibliothèque à la bibliothèque universitaire d'Angers. La correspondance purement familiale, je crois, la famille n'en fera rien. La famille, je crois qu'elle a plus envie de publicité. Hein.
Oui.
Elle en a eu assez.
Oui, tout à fait. Merci à vous, Émilie Ladaise.
Merci beaucoup.
Folkoche, c'est un livre dont je vous conseille la lecture. Ça vient de paraître aux éditions Grasset. Et on trouve avec une photo du vrai visage. C'est important. Le vrai visage de la mère d'Hervé Bazin.
Une jolie jeune femme.
Voilà, on voit enfin son visage. C'est important des fois d'aller derrière chercher un petit peu les mots. Merci à Flo Descailloux pour nous avoir accompagnés pour cette émission. Vous pouvez réécouter notre émission sur le site de Radio Libertaire. C'est ce qu'on appelle un podcast. Vous aurez un lien et puis vous pouvez partager ce lien. Voilà, merci à vous tous. Je vous conseille d'aller en librairie pour découvrir un peu ce qui se cache derrière le visage des mots. Et je vous dis à la fois prochaine.
Il n'y a pas d'émission derrière, donc ça va, on a le temps. Ce qui a manqué à Hervé Bazin, c'est une chanson douce. Henri Salvador.
Une chanson douce que me chantait ma maman. En suçant mon pouce, j'écoutais en m'endormant. Cette chanson douce, je veux la chanter pour toi. Car ta peau est douce comme la mousse des bois. La petite biche est aux abois, dans le bois se cache le loup. Mais le brave chevalier passa, il prit la biche dans ses bras. La 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 la. La petite biche, ce sera toi si tu veux. Le loup on s'en fiche, contre lui nous serons deux. Une chanson douce pour tous les petits enfants. Une chanson douce comme chantait ma maman. Oh le joli conte que voilà, la biche en femme se changea. La 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 la. Et dans les bras du beau chevalier, belle princesse elle est restée à tout jamais. Une chanson douce que me chantait ma maman. En suçant mon pouce, j'écoutais en m'endormant. Cette chanson douce, je veux la chanter aussi. Pour toi, ô ma douce, jusqu'à la fin de ma vie. jusqu'à la fin de ma vie, jusqu'à la fin de ma vie.